Voilà, bonsoir, bonsoir à tous, toutes. Donc nous commençons comme d'habitude par un extrait de la parole. Je vais prendre quelques versets non consécutifs du chapitre 3 et du chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La loi, en effet, ne donne que la connaissance du péché. Mais maintenant, indépendamment de la loi, la justice de Dieu a été manifestée. La loi et les prophètes lui rendent témoignage. C'est la justice de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par sa grâce, en vertu de la délivrance accomplie en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré d'une loi de péché et de mort. Vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si le Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est voué à la mort à cause du péché, mais l'Esprit est votre vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ceux-là sont fils de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rend esclave et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions « Abba, Père ». Cet esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, enfants et donc héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ, puisque, ayant part à ses souffrances, nous aurons part aussi à sa gloire. Nous te remercions, Seigneur, pour l'apôtre Paul et pour l'audace de sa parole, pour cette intime conviction qu'il avait d'être ton instrument et d'apporter par sa parole la possibilité d'accueillir le salut, d'accueillir ton Fils Jésus-Christ en nous, d'accueillir son Esprit. Nous te remercions pour notre baptême par lequel cet Esprit habite en nous. Remercions pour notre confirmation par laquelle il nous rend apôtres. Nous te demandons cette grâce de lui être toujours fidèle et de pouvoir, comme Paul, étendre ton règne, étendre cette capacité qu'a ton Fils de venir transformer, illuminer, guérir la vie humaine. Nous te rendons grâce, Père, à jamais. Amen. Voilà. Voilà, donc nous sommes arrivés au terme du syllabus, au moins. Et donc ce soir, je vais voir le rapport de Saint Paul avec la loi. Mais avant tout autre développement, je voudrais redire la conviction qui traverse le cours. Quand on se demande comment le Christ a accompli la loi, c'est par sa miséricorde. C'est la miséricorde qui est l'accomplissement de la loi. Et donc c'est sur la croix et par le don de l'Esprit Saint que cet accomplissement est définitif. Donc, par sa résurrection, Le Christ rend aux pécheurs la perspective du bonheur, puisque nos péchés sont pardonnés par l'acte d'amour du Christ sur la croix. Et puisque nos péchés sont pardonnés, nous pouvons réellement croire que Dieu veut se donner à nous. Dieu tel qu'il est, Dieu qui n'est que lumière, paix, il est impossible de concevoir en Dieu le moindre mal. Et Dieu veut se donner à nous. Et comme pécheurs, nous pouvions douter de cette volonté de Dieu ou de notre dignité à le recevoir. Et dans le Christ, cette dignité nous est conférée une deuxième fois gratuitement. Donc en nous rétablissant dans notre dignité d'enfant de Dieu, donc ceux à qui il communique ce qu'il est, Jésus a fait ce que la loi visait, c'est-à-dire instaurer la communion de chacun avec Dieu et la communion des hommes entre eux. Bien sûr, nous sommes encore en chemin sur ce parcours, mais notre espérance est intacte. Et comme je l'avais dit, sans espérance, la morale n'est pas possible. On n'est pas capable de faire un sacrifice pour le bien si on ne croit pas que ça portera du fruit. Alors la semaine passée, j'avais exposé les différences de regard de Matthieu et de Paul sur la loi, sur l'enseignement de Jésus. Donc je vous rappelle simplement que Paul est l'homme des commencements, il annonce le Christ ressuscité pour qu'on adhère à lui, on passe à une nouvelle vie où on reconnaît que c'est Jésus qui est le Seigneur, ça veut dire que ce n'est plus moi qui suis le Seigneur de ma vie, j'accepte que ce soit l'action d'un autre qui est venu nous rejoindre, qui devienne l'axe de ma vie. Ce que Jésus a fait est désormais ce qui est normatif pour ma vie. Et donc Paul est le fondateur de communautés et il insiste sur la grande différence entre avant Jésus et après Jésus. Tandis que Matthieu s'adresse à une communauté qui a accueilli le Christ mais qui doit persévérer dans la grâce du Christ et qui se structure comme corps du Christ, donc qui accepte de nouvelles lois. L'Église s'organise autour de ministères et d'une structure qu'elle a reçue justement de ce passage de Jésus sur la terre. Et donc le rapport de Matthieu à la loi n'est pas de voir tous les dangers qu'il y aurait dans la loi, mais comment le Christ donne aux chrétiens la possibilité de vivre selon la volonté de Dieu, donc de faire le bien, de se donner pour les autres. Et donc la façon dont il parle est différente par leur position pastorale, de fondateur ou de pasteur qui accompagne une communauté en croissance. Et donc, à cause de cela, le mot n'a pas exactement, les mots loi, les mots péché, etc., n'ont pas exactement le même sens chez l'un et chez l'autre. Mais donc, cela pour éclairer s'il y a des différences entre ce que nous avons vu dans le sermon du Seigneur et ce que Paul nous enseigne et que nous prenons aujourd'hui. Donc en sachant bien que Paul a écrit ses lettres avant que les évangiles ne soient écrits. Les premiers écrits du Nouveau Testament, ce sont les lettres de Paul. Les évangiles n'ont été écrits que 20, 30 ou 40 ans plus tard. Mais nous prenons les écrits dans l'ordre où ils nous sont donnés dans la Bible. Alors, la loi dans les enseignements de Paul. Alors, qu'est-ce qui aide à comprendre ce qu'est un péché? Est-ce que c'est la loi ou est-ce que c'est la miséricorde? C'est un peu ça l'enjeu de la leçon d'aujourd'hui. Les liens entre loi et péché sont extrêmement ambigus. Nous allons voir comment saint Paul expose, dans l'Épître aux Romains en particulier, le retournement par lequel la loi, qui est chargée de promouvoir la justice, de promouvoir le bien de l'homme, devient comme un instrument de péché. Mais avant d'étudier Paul, je voudrais rappeler en quelques mots ce que nous croyons du péché. Donc, comme chrétiens, nous partons du Christ pour comprendre la notion de péché. C'est l'amour du Christ qui dévoile que les fautes, tous les hommes sont conscients de faire des fautes, même les non-chrétiens, mais c'est l'amour du Christ qui dévoile que ces fautes sont des péchés. En effet, Les croyants attachés à la loi, on pourrait dire la catégorie des juifs dans l'épître aux Romains, donc les croyants attachés à la loi considèrent le mal commis par l'homme comme une faute contre la loi. Les croyants qui ne connaissent pas la loi, c'est-à-dire dans l'épître aux Romains la catégorie des Grecs, entre guillemets, considèrent le péché comme une faute contre l'idéal. Ces deux notions traversent notre culture judéo-chrétienne qui est aussi façonnée par l'Égypte et la Grèce. Donc le péché, soit une faute contre la loi, soit une faute contre l'idéal. Mais c'est l'amour du Christ qui dévoile que nos fautes atteignent l'amour absolu qui est présent dans le monde. C'est une révélation, cela. On peut avoir péché contre l'idéal ou péché contre la loi sans se rendre compte qu'on touche Dieu, qu'on touche le Créateur. Cela est révélé par le Christ. Et révélé en partie dans l'Ancienne Alliance déjà, puisque Dieu se révèle lui-même dans sa sainteté. Mais nous apprenons ainsi du Christ que derrière chaque péché, il y a un non, N-O-N, le contraire de oui, invraisemblablement plus négatif que nous n'en avions conscience. Un non à la présence et à l'amour de Dieu. Donc en tout péché, il y a un refus de l'amour absolu qui se donne. Mais nous ne pouvons pas en prendre conscience, sinon dans la miséricorde de Dieu, sinon ce serait totalement désespérant. Et le chrétien s'engage au baptême à combattre ce non, hein, avec toute l'Église du Christ. Donc le baptême n'est pas seulement une purification de la souillure du péché, il est, en recevant l'Esprit-Saint, un engagement à se battre contre lui, à suivre le Christ qui s'est battu contre Satan, qui a voulu vaincre le mal qui afflige l'homme. Alors, le non à l'amour absolu qui est présent dans le monde revêt dans la vie des hommes la forme d'une gnose. Donc la gnose, c'est une théorie philosophique des premiers siècles qui prétendait que l'homme est sauvé par la connaissance. Les hommes sont pécheurs parce qu'ils sont ignorants de ce qu'est le vrai bien, mais s'ils acquièrent la connaissance éventuellement de possibilités ésotériques de l'homme, eh bien alors ils sont sauvés. Eh bien, dans cette manière de penser, qui est celle de beaucoup de nos contemporains, le péché est réduit à une faute contre la loi ou contre l'idéal. Et donc, puisque nous sentons que nous ne sommes pas à la hauteur ni des lois ni de nos idéaux, l'effort que la gnose poursuit, c'est un effort de déculpabilisation. Puisqu'on se sent coupable, il faut aider les gens à se déculpabiliser. Et on peut se servir de cela, pour cela, des découvertes des sciences humaines, donc de la psychologie, de la sociologie. Mais on n'aura pas résolu le problème de fond, qui est que dans le péché, il y a un refus de l'amour absolu qui se donne. Tout péché s'oppose à l'amour trinitaire et atteint le cœur du crucifié, qui concrétise dans ce monde cet amour trinitaire qui s'offre à nous. C'est dans le cœur du Christ que nous voyons à quel point Dieu veut se donner aux hommes. Le fait que le crucifié a assumé le péché demeure un pur mystère de la foi, dont aucune philosophie ne saurait établir la nécessité, il n'y a pas de nécessité du salut, ni l'impossibilité. Aucun philosophe ne peut dire que c'est impossible que le Christ nous sauve du péché. La philosophie est en deçà de l'action de Dieu dans le Christ. C'est pourquoi le jugement sur le péché reste réservé au Fils de l'homme transpercé auquel tout jugement a été remis. On voit ici pourquoi il est nécessaire dans notre foi de croire que le jugement dernier, pas au sens de à la fin des temps, mais le jugement dernier sur toute faute, sur tout péché, est remis à Jésus. Il est le seul qui peut assumer la profondeur du péché pour nous en libérer. Alors, c'est à cause de ce fait que le jugement est remis au Fils, que Matthieu dit de la part du Christ, ne jugez pas. Nous ne pouvons juger aucun homme. Nous pouvons juger des actes, nous pouvons juger des comportements, mais nous ne pouvons juger aucun homme. Nous sommes incapables de savoir ce qui se joue entre une personne et son créateur. Mais donc, la loi révèle la faute, mais elle ne révèle pas l'amour, et donc pas le péché. C'est ça, en très résumé, ce que Paul a voulu dire. La loi révèle la faute, mais comme elle ne révèle pas l'amour, elle ne révèle pas le péché. Seul l'amour se révèle comme atteint par la faute et victorieux d'elle. Donc, le péché, dans notre conception chrétienne, est un vaincu. Tandis que la faute, elle ne nous lâche pas. On peut faire des cures de déculpabilisation, ça ne marchera pas. La seule manière d'être libéré de ses fautes, c'est d'accepter qu'un autre nous en délivre. Mais tant qu'on essaye par soi-même, je ne suis pas coupable, je ne suis pas coupable, je ne suis pas coupable, ça ne marche pas. Et c'est une autre main qui dit tu n'es pas coupable, tu n'es pas coupable, tu n'es pas coupable, ça ne marche pas non plus. Donc, il ne faut pas trop d'illusions là-dedans. Bien, alors quel est l'enseignement de Paul aux Romains? Donc je passe au grand A. C'est que la méconnaissance de Dieu est le péché dans sa source. Donc, et il est commun à tous les hommes. Donc vous avez les citations sur votre feuille là. Romains 1, 21-24. Ayant connu Dieu, les païens donc, ne lui ont pas rendu comme à un Dieu, ni gloire, ni action de grâce. Mais ils ont perdu le sens dans leur raisonnement et leur cœur inintelligent s'est enténébré. Dans leur prétention à la sagesse, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible contre une représentation, simple image d'homme corruptible, d'oiseau, de quadrupède, de reptile. Donc on pense ici à toutes les idoles grecques, égyptiennes et d'autres pays. D'avant la venue du Christ, enfin et parfois durablement encore au-delà, donc des représentations. On adore un bout de bois, une statue en or, un temple, au lieu d'adorer le Dieu unique. Aussi Dieu les a-t-il livrés, selon les convoitises de leur cœur, à une impureté où ils avilissent eux-mêmes leur propre corps. Comme ils n'ont pas jugé bon de garder la vraie connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à leur esprit sans jugement pour faire ce qui ne convient pas, rempli de toute injustice, de perversité, etc. Donc il y a 23 caractéristiques des péchés des hommes là, au début de l'Épître aux Romains. Mais ce qui est dit là-dedans, ce qui est révélé là-dedans, c'est que l'agir moral de l'homme dépend intimement de l'attitude qu'il adopte vis-à-vis de Dieu. Alors, quand je dis ça, je ne dis pas vis-à-vis du Dieu annoncé par les chrétiens, je dis vis-à-vis de Dieu tout court. Hein, parce que Dieu reste présent à chaque homme et se propose à lui, ne fût-ce que comme la vérité. Quelqu'un qui cherche sincèrement et honnêtement la vérité reste sur le chemin ou se remet sur le chemin de Dieu. Hein. Mais voilà, l'attitude que l'homme adopte vis-à-vis de Dieu va déterminer son comportement moral. Si Dieu est un Dieu qui fait des reproches, le passage que nous venons de lire sur les péchés des hommes est interprété comme culpabilisant. Si Dieu est un Dieu méconnu, le passage décrit un drame. J'avais déjà utilisé cette expression plus tôt pour parler du péché. Et donc la méconnaissance de Dieu va rejaillir sur la façon dont nous interprétons la loi. Si Dieu est méconnu, la loi sera une calamité qui accuse l'homme. J'ai connu une cheftaine guide qui ne voulait plus, donc c'était il y a 25 ans, quand on donnait encore, ou 30 ans, quand on donnait du prix à la loi scout, qui disait « on ne peut pas donner la loi aux guides, ça va les culpabiliser ». Ignorance totale que, d'une part, les jeunes ont besoin d'un idéal pour croître, et d'autre part, que la miséricorde existe. Voilà. Alors, le but du début de la lettre aux Romains est de montrer l'universalité du péché, qui est décrit d'un point de vue objectif, comme se présentant sous deux catégories. celle des juifs, entre guillemets, et celle des païens, entre guillemets. Donc, les juifs étant ceux qui s'attachent à la loi, et les païens, ceux qui n'ont pas reçu la loi de Moïse. Donc, c'est une description objective, il ne s'agit aucunement d'apprécier la culpabilité subjective des hommes là-dedans. C'est un regard détaché, si on veut, sur le phénomène du péché dans l'humanité. Et le péché est dévoilé comme une défiguration de Dieu dans la pensée de l'homme. Selon le père Grelot, même les représentations de Dieu qui sont utilisées dans ces chapitres ne sont pas choisies au hasard. Parce que Paul dit ceci, « Les païens auraient dû reconnaître de Dieu son éternelle puissance, sa divinité, sa gloire. » Or, ces mots appartiennent à une image tronquée de Dieu. Ces traits peuvent être confrontés sans difficulté avec l'image ambivalente du Père. Puissance, à la fois rassurante et terrifiante, refuge de l'homme et juge de ses méfaits, bonté et vindicte ou châtiment. Il désigne Dieu comme pouvoir et autorité, sans rien laisser entrevoir d'une relation d'amour possible avec lui. J'ai même un ami qui dit qu'après notre Père, on ne devrait pas dire, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. C'est faire de Dieu un Louis XIV. J'essaye d'expliquer que la gloire de Dieu, elle éclate dans le cœur percé de Jésus, mais c'est difficile. Bien. Alors, l'Alliance a commencé à corriger pour les Juifs cette image. Dieu n'est pas que puissance, puisqu'il fait une alliance. Mais Paul s'adresse à des Juifs qui, à cause de ce don, se croient supérieurs aux nations et se sont mis à juger sévèrement les païens. Leur conduite montre pourtant qu'ils ont méconnu eux aussi les richesses de bonté, de patience et de longanimité qui auraient dû les pousser au repentir. Leur connaissance de Dieu se réduit elle aussi à son aspect autoritaire et ignore la paternité. Sa présence à l'arrière-plan de la pensée introduit nécessairement dans le sentiment religieux un esprit de crainte, corrélatif à l'impression de se trouver en esclavage. Une loi qui est imposée par un tyran, et en plus on ne peut rien contre ce tyran, il est inaccessible, il est aux cieux. Donc tous, juifs et païens, se sentent donc l'objet d'une condamnation. C'est ça que Paul a relevé. Et cela parce que tous ont une loi qui les juge. Les païens n'ont pas reçu la loi mosaïque, mais ils ont la loi de leur conscience et leur loi civile qui les juge. La loi comme juge fait prendre conscience aux hommes de leur état de péché, et révéler le péché est une des fonctions de la loi. Donc je prends ici le mot péché non pas au sens plénier que j'ai décrit de ce qu'il est dévoilé dans le Christ, mais au sens incomplet de transgression d'un commandement ou de faute. C'est vrai que c'est la loi qui révèle la faute. Cette fonction repose sur un autre rôle de la loi, que Paul souligne, qui est de révéler la volonté de Dieu sur l'homme. Quand Dieu dit « tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère », c'est vraiment sa volonté sur l'humanité. Mais l'homme privé par le péché de l'authentique connaissance de Dieu est enfermé dans un cercle. Se sentant jugé et condamné par la loi, il se sent jugé et condamné par Dieu. Il se sent sous la colère de Dieu. Il croit que le mal qu'il pâtit comme conséquence de son péché, les ténèbres du cœur et de l'esprit, la crainte, le sentiment d'esclavage, la dépravation morale, que tout cela est voulu par Dieu comme une méchante vengeance contre le pécheur. Loin d'y voir de l'amour, comment Dieu pâtit ce mal en attendant et en espérant que l'homme se détourne de sa folie, l'homme pécheur se sent justifié dans sa révolte contre Dieu et il y trouve un prétexte pour pécher davantage. On en voit promener Dieu et la loi. Je n'invente rien, l'actualité le montre. Donc vous avez le schéma de ce qu'est l'enfer. Donc c'est ce cercle dont on ne sort pas. Donc enfer ou enfermement. Même il y a un ami jésuite qui coupe le mot en trois. L'enfer me ment. Il me ment sur ce qu'est Dieu et sur ce que je suis. L'enfer me ment. Bon. Mais voilà, Dieu m'est connu, Comme Dieu est méconnu, l'homme ne croit pas, ne sent pas qu'il a en lui un désir d'amour qui fait répondre à l'amour de Dieu et il pêche. Comme il est incapable de reconnaître l'amour de Dieu, il croit que la loi de Dieu le juge et que Dieu se venge. Il se révolte, il se sent justifié dans sa révolte et il pêche davantage, il s'éloigne de plus en plus de Dieu et de sa loi. Et sa reconnaissance et son amour de Dieu diminuent. C'est ça le drame, c'est que nous avons une conception du péché, nous, parce que nous avons le sacrement de réconciliation dont on peut revenir, si vous voulez, sur le droit chemin. Mais quand on n'a plus du tout cette notion-là, le drame, c'est que plus on pêche, plus on méconnaît Dieu, parce que faire le bien est ce qui nous fait connaître que Dieu est bon. Quand nous sommes bons avec nos enfants, quand nous sommes bons avec un pauvre, avec un malade, nous vivons ce qu'est Dieu, qui est la compassion, qui est la miséricorde. Et notre connaissance de Dieu augmente. Tandis que quand nous ne faisons pas le bien, quand nous faisons le mal, nous nous éloignons de Dieu et de la connaissance que nous en avons. Et la crainte augmente chaque fois, mais sans solution, je dis, malgré toutes les tentatives de déculpabilisation. Alors, donc ça, c'est la situation d'origine, hein, que Paul décrit et qui dit qu'elle vaut pour tout homme, qu'on soit juif ou qu'on soit grec, qu'on ait reçu une loi divine ou pas. C'est cette situation dans laquelle l'homme se trouve et dont l'origine n'est pas expliquée autrement qu'en renvoyant à une première faute qui a mis l'homme dans cette situation-là, celle d'Adam. Alors, je passe à la section B, la loi comme transformée en instrument du péché. Donc au chapitre 7 de la lettre aux Romains, saint Paul décrit le cercle infernal du péché avec ses contradictions. Et c'est là que se trouve cette affirmation que la loi peut devenir instrument du péché. Puisque, vous voyez, dans le cercle à 5 heures, la loi de Dieu juge. Donc la loi entre dans le cercle. Elle est comme captée par le cercle, hein, sans sortir l'homme du cercle. Donc, c'est là que se trouve l'affirmation que la loi peut devenir comme un instrument du péché. Elle n'est donc pas que pure et sainte si elle devient comme un instrument du péché. Alors, Paul pose la question de façon nette. Qu'est-ce à dire? La loi serait-elle péché? Certes, non. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Donc, il va devoir expliquer ce qu'il a voulu dire par là. Hein. Quelle est cette espèce d'association entre le péché et la loi? Alors, je n'ai connu le péché que par la loi. Le mot connaître peut être pris ici au double sens. Faire l'expérience. La loi m'a fait faire l'expérience du péché. Et savoir. C'est par la loi que je sais qu'il y a le péché dans ma vie. Alors, il y a trois manières dont la loi peut devenir comme un instrument de péché. Je dis comme parce qu'en fait, la loi reste pure et sainte. Mais c'est le péché qui s'en empare. C'est comme si on vous donnait quelque chose de très précieux, comme l'or, et que ça vous rendait cupide. La cupidité n'est pas dans l'or. Alors, Paul s'explique. « Ainsi, je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». Et un peu plus loin, « Saisissant l'occasion, le péché a produit en moi toutes sortes de convoitises, par le moyen du commandement. Car sans la loi, le péché est une chose morte. » Ça, c'est une affirmation forte de Paul aussi, que s'il n'y avait pas eu de loi, il n'y aurait pas eu le cercle non plus. Mais l'homme, donc je vais analyser cette histoire de la convoitise, l'homme est habité par une soif qu'aucun objet terrestre n'apaise définitivement. Comme dit saint Augustin, notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Toujours et toujours, le désir ressurgit. Comme désir de posséder les choses, ou de s'en emparer pour les consommer, les aliments, ou de mettre la main sur les autres pour qu'ils soient à notre service. Puisque nos désirs reviennent toujours, on cherche comment les satisfaire, les combler. Le désir est un dynamisme vital, c'est lui qui met l'homme en mouvement. Et l'interdit de la loi fait prendre conscience du désir, qui est toujours là, et lui présente un objet sur lequel se diriger. Ne prends pas le chocolat qui est dans l'armoire. Extraordinaire cette affaire-là. Le désir est là, on lui parle de chocolat et on lui dit ne le prends pas. Vous voyez la frustration que nous avons tous connue quelque part dans notre vie et des centaines de fois. D'où la révolte, parce que dans la mesure où l'amour n'est pas perçu dans l'interdit, la loi apparaît comme anti-vie. Elle se greffe sur mon désir de vie et elle se met en travers. Elle contrarie le mouvement le plus spontané de la personne. C'est pourquoi, au point où nous en sommes, la loi peut se résumer en un seul commandement, « Tu ne convoiteras pas ». Alors, je rappelle que le désir comme tel n'est pas un péché, mais en choisissant de l'investir sur un objet que la parole d'un autre a qualifié, ne prends pas le chocolat qui est dans l'armoire. Ce chocolat n'est plus du pur chocolat. Il est du chocolat dont on m'a parlé. Quelqu'un m'a parlé. C'est du chocolat qui est dans une relation. Eh bien, en choisissant de l'investir sur un objet que la parole d'un autre a qualifié comme interdit, le désir qui était simplement désir de vie, de grandir, etc., devient un désir humain, un désir qui est pris dans un jeu de relations. Et c'est là qu'il devient moral. Comme tel, le désir est prémoral, si vous voulez, mais dès qu'une parole le qualifie, il entre dans l'univers humain. Et c'est pourquoi, désormais, faire ce qui est interdit est un mal, parce que je méprise la parole de l'autre, je méprise un autre être humain, je méprise une relation, ce n'est pas de manger du chocolat qui est mal. Donc si la loi n'est pas reconnue comme parole d'un amour et d'une promesse, parce que l'amour promet toujours, elle devient comme un instrument du péché. Alors qu'elle devait capter la puissance du désir pour le faire aboutir dans l'amour, elle provoque la révolte et excite la convoitise. Donc, première manière dont la loi est happée par le péché pour servir au mal. Deuxième manière, la loi fait de la simple faute une transgression. Je redis d'une certaine manière ce que je viens de dire, mais la loi fait connaître comment l'homme doit se comporter ou s'abstenir de se comporter vis-à-vis des autres ou de Dieu. Ce qui auparavant a pu être commis par inadvertance, manger trop de chocolat et être malade, ou par ignorance, devient une violation consciente de la loi, une transgression. L'homme qui l'accomplit, parce qu'il est prisonnier de sa révolte contre le commandement, fait le mal en sachant qu'il fait mal. Et donc il augmente la révolte. Petit c, la loi présente la tentation de me justifier par la loi. Ça c'est plus nouveau. C'est ce que les pharisiens n'avaient pas saisi, et Paul non plus, avant le chemin de Damas. La loi peut être la tentation de faire ma justice au lieu de la recevoir. Ce qui m'enfonce dans l'essence même du péché, c'est la suffisance, la volonté de se sauver soi-même. Je n'ai pas besoin de toi. Je vous avais dit, la haine, c'est de dire à quelqu'un qui nous aime, je n'ai pas besoin de ton amour. Mais la suffisance, c'est ça. Et donc, moi, je serai injuste par moi-même, indépendamment de l'amour, de la miséricorde. Et c'est ce que saint Paul appelle la chair. La chair, c'est l'homme livré à lui-même, croyant qu'il ne peut compter que sur lui-même. Ça peut être un lui-même collectif. Une nation peut être prisonnière de cette croyance qu'elle peut s'en sortir par elle-même sans le reste des hommes, quoi. On peut les éliminer, tous les autres, ça ne changerait rien. Et l'homme livré à lui-même et qui connaît dès lors les soucis, la crainte et la tristesse du monde. Parce que quand il n'y a pas de salut, c'est ça la vie de l'homme, c'est le souci, la crainte et la tristesse. Prise dans un processus d'auto-justification, la loi ne produit pas la liberté. Donc je dis prise dans un processus d'auto-justification, je ne dis pas la loi en elle-même. Mais au contraire, l'homme se sent toujours plus divisé, déchiré entre ce que sa raison reconnaît et ce qu'il accomplit. Nous ne sommes jamais à la hauteur de nos idéaux, ni même parfois du simple bien à faire. La révélation s'opère lorsque l'amour touche une vie et montre que l'homme n'est pas déchiré intérieurement parce qu'il aurait été constitué tel. Donc, c'est-à-dire, ça aurait été un défaut originel de la création. D'où l'importance du récit de la création de montrer que tout était créé bon et qu'avant le péché, l'homme n'était pas déchiré. Mais la révélation, donc quand l'amour touche une vie, montre que cette division intérieure est le fruit du péché. Aucune part de moi-même n'est maudite à l'origine, et surtout pas le corps, surtout pas la chair au sens du corps sexué. La vie sous un régime de crainte et de division intérieure correspond à un refus. Le refus d'être voulu par un autre. La difficulté que les hommes d'aujourd'hui ont accepté qu'ils sont créés simplement, voulus par un autre. C'est comme si c'était une infamie, une humiliation d'avoir été voulu par un autre. Pourtant, tout le monde a des parents. Voilà. Donc, refus que Dieu m'aime pour moi-même, sans raison. Refus que Dieu ait pu vouloir ce que je suis. Et la bonne nouvelle du péché originel, pour reprendre une expression d'un collègue jésuite maintenant décédé de Paris, le père René Marlet, consiste en ceci. L'amour qui continue à se donner et à se promettre dans la parole de Dieu révèle la fausseté de l'image que je me fais de moi-même, comme homme divisé et on n'en sort pas, esclave de cette division, et la fausseté de l'image que je me fais de Dieu. Je me croyais haï, condamné sous une malédiction parce que je ne parviens pas à respecter la loi. En fait, je ne parviens pas à respecter la loi parce que je me crois rejeté et condamné. Vous voyez l'inversion. Quand on accepte ça, on fait un grand progrès spirituel. Donc, il m'est révélé que je me suis laissé prendre par le péché, par le refus de l'amour qui se donne. Je n'ai pas voulu y croire. Je ne veux pas y croire. Une partie de moi-même continue de refuser d'y croire. Alors, donc, on avait le péché objectif, dans lequel toute l'humanité est enfermée, et puis une révélation d'amour, qui pour nous est absolue et culmine dans le Christ en croix, mais qui pour tout homme advient par l'amour dans sa vie, qui fait voir qu'il en est autrement de la loi du bien, du mal, du péché, du salut. Alors, le grand C, c'est la loi comme pédagogue vers le Christ. Paul, relisant le rôle du Christ pour notre salut, relit maintenant à quoi a servi la loi, et en particulier dans le peuple juif, la loi reçue de Moïse. Donc, soit que l'homme essaye de nier les exigences de la loi pour se déculpabiliser. Donc, c'est une manière de dire, mais non, l'avortement n'est pas interdit. L'euthanasie, mais non, c'est pas un mal. C'est une manière d'essayer de se déculpabiliser. Ça n'arrange rien, hein? On va continuer à en faire et en faire plus qu'avant. Mais voilà. Soit que l'homme essaye de nier les exigences de la loi pour se déculpabiliser, soit qu'il essaye de les satisfaire par lui-même pour ne pas avoir à se culpabiliser, l'homme reste prisonnier. La loi s'interpose entre le vrai visage de Dieu et l'homme et l'enferme dans le cercle de la culpabilité. Mais cette déchirure, qui peut conduire jusqu'au désespoir, peut aussi ouvrir à la foi, à l'espérance dans le Dieu de grâce et du salut. Donc c'est le retournement qui est exprimé à la fin du chapitre 7 de Romains, vous avez la citation sur vos feuilles. « Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui appartient à la mort ?» Donc, comme homme appartenant à la nature humaine, je suis prisonnier du cercle, et grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit, qui donne la vie en Jésus-Christ, m'a libéré de la loi du péché et de la mort, cette loi du cercle. Ce qui était impossible à la loi, Dieu l'a fait. C'est la loi qui ferme le cercle et qui amène l'homme à se rendre compte qu'il tourne en rond. Elle le conduit ainsi jusqu'à la limite de lui-même, jusqu'au moment où, parfois à travers le désespoir, un « je n'en sors pas plein de larmes », il est amené à pousser un cri Sauve-moi, qui enfin arrache l'homme à lui-même. Et c'est ce que Paul dit, la loi est intervenue pour que se multiplie à la faute, le cercle, mais où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Dieu a été plus fort que le cercle par l'envoi de son Fils et l'amour que son Fils a vécu sur la croix pour nous tous pécheurs. C'est parce que nous sommes pécheurs qu'il est sur la croix et non pas simplement parce que nous sommes hommes. Alors, vous avez le petit schéma sur la feuille là qui montre l'homme triste, soucieux, qui a l'impression qu'entre Dieu et lui se dresse ce mur de la loi, soit que la loi le condamne, soit qu'il n'est pas assez grand pour grimper dessus et satisfaire toutes les exigences de la loi. Et par la croix, il y a une conversion, un passage, à se rendre compte, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui croient à l'amour de Jésus manifesté sur la croix, le péché ne peut plus les empêcher de se sentir aimés de Dieu. Chaque fois qu'ils ont péché, ils peuvent revenir au cœur du Christ. Alors ce n'est pas ici, je l'exprime comme un changement dans la manière de penser, mais c'est un changement beaucoup plus radical. En prenant notre chair, le Christ a vraiment fait quelque chose qui touche toute l'humanité. Alors, le pédagogue, dans l'Antiquité grecque, c'était l'esclave chargé de conduire les enfants vers le maître d'école et de les maintenir dans la discipline. C'est intéressant, ça. Maintenant, les professeurs doivent faire tout le travail eux-mêmes dans les classes de primaire. Là, il faut obtenir la discipline et donner l'enseignement. Mais chez les Grecs, c'était plus malin. Donc, il y avait quelqu'un avec un petit bâton ou une règle pour taper sur les doigts ou sur l'épaule de l'élève. Et le professeur, lui, n'avait qu'à se soucier de son enseignement. Donc, c'est ça un pédagogue. C'est celui qui conduit l'enfant au maître et qui le garde dans la discipline. Eh bien, Paul a trouvé que cette fonction était au fond ce que la loi faisait. Galates 3, 23-24, sur vos feuilles aussi. « Avant la venue de la foi, nous étions enfermés sous la garde de la loi, réservés à la foi qui devait se révéler. Ainsi, la loi nous servit-elle de pédagogue jusqu'au Christ pour que nous obtenions de la foi notre justification, pas de notre accomplissement de la loi, pas d'autre chose, mais de la foi. » Mais il voit tout à coup le rôle de la loi comme menant jusqu'au Christ. Il faut noter que le passage du cercle péché, loi, malédiction, péché, etc., à l'accueil de la grâce offerte dans le Christ Jésus, n'est pas un simple développement de potentialités inscrites dans le cercle lui-même. C'était une voix venue de l'extérieur et annonçant sa pitié, sa compassion pour le pécheur souffrant, que le pécheur, contraint par l'aveu de son impuissance, accorde sa foi. Donc, on ne sort pas du cercle, parce que le cercle est cercle, il faut un appel de l'extérieur. D'où mon insistance au début de cette leçon sur le sens que Paul avait en annonçant Jésus-Christ, il donnait l'occasion de sortir du cercle mortifère. C'est pour ça que nous avons annoncé un Christ ressuscité. Les gens en ont besoin. C'est pas en leur disant « tu en as besoin » que ça se passera. C'est en leur manifestant la charité et la compassion du Christ. Mais il faut que le Christ soit annoncé, sinon le désespoir n'a pas à qui s'adresser. Alors, c'est après coup que la conscience délivrée reconnaît dans le stade éthique, donc notre rapport simplement à la loi, vécu comme un esclavage, la voie tortueuse de sa libération. Voilà, alors, donc, on ne peut pas vouloir, quand on a vu que la loi était un pédagogue jusqu'au Christ, se dire, ah bon, mais maintenant, péchons, 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 puisque ça nous mène au Christ. Péchons, péchons, péchons ne mène à rien. C'est le Christ qui, de l'extérieur, nous sort de ce cercle. Alors, et nous donne alors par son esprit, il fait de nous des justes, d'une part, puisque en mourant sur la croix par amour, il nous montre que nos péchés ne sont pas capables de vaincre l'amour, que ça ne sert à rien de pécher pour vaincre l'amour, donc, puisqu'il est là sur la croix volontairement. Bon. Mais en même temps, il nous rend juste parce qu'en nous donnant son esprit, en nous laissant toucher par cet amour, nous devenons capables de vivre selon l'amour aussi. Nous sommes justifiés deux fois, si vous voulez. Une première fois par l'amour du Christ qui nous sauve du péché et de la culpabilité, et une deuxième fois en nous faisant grandir dans la justice, en nous rendant semblables à lui. Et ça, c'est tout un chemin jusqu'à notre mort et un quart d'heure après. Donc, je passe donc au grand D, la vie dans l'esprit. Qui est l'homme déchiré de Romains 7? Donc celui qui s'exprime en disant, sur vos feuilles aussi je pense, « Je ne comprends rien à ce que je fais. Ce que je veux, je ne le fais pas, mais ce que je hais, je le fais. » Donc, je pêche contre l'idéal, je pêche contre la loi, je pêche contre ce que demande de moi l'espérance ou la charité. Au cours des siècles, les lecteurs de l'Écriture ont hésité sur la portée à donner au texte de Romains 7. L'homme déchiré qui y est décrit, est-il l'homme qui n'a pas encore été atteint par la grâce? Ou bien ce texte désigne-t-il le chrétien aussi? Le consensus actuel des exégètes catholiques et protestants semble aller dans le sens suivant. Donc je reproduis dans le cours une note de la Taube. Pour la plupart des exégètes anciens et pour quelques modernes, il s'agirait ici et dans les versets suivants du chrétien. Mais il est bien plutôt question de l'homme pécheur non encore justifié par la foi. Alors, mais la note ajoute ceci. Certes, la situation décrite ici se retrouve transposée dans la vie du croyant, mais de façon bien différente. Le bien différente vient de ce que, pour celui qui continue à vivre de sa foi, le déchirement qu'il vit ne le livre pas à rien ou au désespoir, mais au Christ. Nous savons que nous pouvons demander sa grâce pour sortir de nos impasses. Même si ça prend du temps, il y a des péchés contre lesquels il faut lutter pendant 35 ans pour les vaincre. Mais ça ne fait rien, pendant 35 ans j'ai fait appel à la grâce du Christ pour en sortir. Et que j'en sorte rapidement ou lentement, c'est pas ça qui importe. En fait, on ne peut pas poser la question en termes de tout ou rien. Il est clair que les chrétiens n'expriment pas dans leur conduite une parfaite fidélité à la loi et qu'ils souffrent de cette impuissance. Si par contre on ne prend pas la question en termes de tout ou rien, mais en termes de racines ou de semences, nous reconnaissons que la révélation de l'amour de Dieu dans le Christ, dont le baptême a signifié et réalisé l'accueil de l'amour de Dieu dans le Christ, bien, cette révélation de l'amour de Dieu nous a transformés dans notre rapport au péché et continue à nous transformer. Nous avons été sauvés à la racine, radicalement, en acceptant que le salut soit donné par le Christ, et ce rattachement à la racine du salut est appelé à porter de plus en plus de fruits. Donc, on peut prendre une comparaison. Dans l'Ancien Testament, le peuple sorti d'Égypte a été libéré de l'esclavage. Il porte maintenant le nom de son Dieu, il sait qui le fait exister, mais il doit encore cheminer longuement et être éprouvé pour connaître sa faiblesse et apprendre de son Dieu la fidélité qui lui permettra d'accéder à la terre promise. Nous faisons quotidiennement l'expérience que toute une part de nous-mêmes n'est pas encore convertie et reste dans la situation d'avant le Christ. Et pour cette part-là de nous-mêmes, la loi continue à jouer le rôle qu'elle a joué dans l'Ancienne Alliance, nous faire prendre conscience de notre péché. Mais cette fois-ci, en vue d'y accueillir ou d'y attendre avec patience la grâce du Sauveur. Par le baptême et par l'appartenance à l'Église, nous vivons dans la foi, mais nous avons toujours à apprendre à vivre de la foi, à vivre de l'action du Sauveur en nous. Cette foi qui chasse le mensonge sur Dieu et qui chasse la crainte, on devient chrétien. Petit B, donc la vie dans l'esprit. Le chapitre 8 de la lettre aux Romains décrit la vie du chrétien comme une vie de combat spirituel. Il y a division et combat en l'homme, mais il ne s'agit plus de la déchirure sans espoir du chapitre 7 où l'homme était seul avec lui-même. Celui qui donne sa foi au Christ comme sauveur reçoit son esprit. Esprit non pas d'esclave, mais de fils. Il n'est plus seul dans son combat contre ce qui le tente. Il a un allié avec une majuscule, un défenseur, un paraclet. Défenseur contre celui qui est à la fois l'accusateur, celui qui nous fait grossir l'importance de nos fautes, c'est l'accusateur, hein, c'est vraiment Satan, l'accusateur de nos frères qui les accusait devant nuit, qui les accusait devant Dieu nuit et jour, dit l'Apocalypse. Donc nous avons contre cet accusateur un défenseur, et cet accusateur est en même temps le père du mensonge sur Dieu et sur nous. Cet allié nous fait invoquer Dieu comme un papa et nous rassure dans notre souffrance en témoignant par sa présence que nous sommes enfants de Dieu. Cette présence en nous est le fruit de l'incarnation. Le monde et la chair que nous sommes ne sont plus de simples données ni des ennemis. Ils sont ce que la parole de Dieu assume pour se dire. Dieu assume le monde et la chair pour se dire. Ils deviennent le corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ, habités par l'amour du Père, habités par son esprit. Le monde et la chair sont désormais une demeure. Le bien que nous faisons, comme le bien que nous avons à faire, car la loi demeure, qui se résume maintenant dans les deux commandements positifs et sans fin, de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain, nous n'aurons jamais fini d'aimer. Mais ce bien à faire, nous le recevons comme un don de Dieu, par le Christ dans l'Esprit. Saint Paul parle à un endroit, j'ai oublié où maintenant, de toutes les bonnes œuvres que Dieu a prévues pour que nous les fassions. Faire le bien, c'est être dans ce dessein de Dieu que le bien se fasse par nous aussi, coule par nous dans le monde. Voilà, donc je résume le rôle de la loi dans la doctrine paulinienne. 1. La loi nous fait connaître la volonté de Dieu. 2. La loi nous révèle notre péché. 3. La loi peut devenir comme un instrument du péché, soit en excitant la convoitise, soit en induisant la tentation de se justifier par soi-même. 4. La loi joue un rôle de pédagogue, conduisant à la foi au Christ Sauveur qui vient à la rencontre de l'homme pécheur. Donc la loi peut conduire à l'amour miséricordieux et gratuit. Et enfin 5, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Alors il y a beaucoup d'autres choses en morale chez saint Paul, bien sûr, en morale sociale et politique, en morale sexuelle et familiale, mais ce n'est pas le domaine d'un cours de morale fondamentale. Il y a d'autres éléments de morale fondamentale chez saint Paul, notamment le rôle de la conscience. Mais voilà, nous en resterons là pour aujourd'hui et pour cette année. Je vous remercie de votre patience et de votre persévérance ici même.